On m'a demandé d'intervenir sur l'aide publique au développement et surtout l'approche de l'association Survie sur l'aide publique au développement. Je commencerai par le plus important, c'est-à-dire la conclusion. C'est-à-dire que l'aide publique au développement pour l'association Survie est à la fois insuffisante en termes de crédit, mais surtout elle est inappropriée et surtout elle est à prendre en compte dans un contexte beaucoup plus large de l'action extérieure de la France en Afrique et surtout des facteurs qui sont des facteurs véritablement structurants des relations Nord-Sud et qui continuent de nuire au développement de ces pays. Voilà un petit peu l'approche générale de l'association Survie. Alors finalement, si on fait un petit zoom sur l'aide publique au développement, d'abord la définition. La définition est donnée par l'OCDE. C'est l'ensemble des financements, soit sous forme de dons, soit sous forme de prêts, soit sous forme de réduction de la dette, qui sont alloués par les pays membres de l'OCDE à des pays bénéficiaires dont la liste est régulièrement actualisée sur le site de l'OCDE. Il faut savoir que les critères de comptabilisation de cette aide ainsi que la liste des États bénéficiaires est établie uniquement par les États qui allouent cette aide, c'est-à-dire elles sont déterminées uniquement par le comité d'aide au développement de l'OCDE. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que les volumes financiers représentent à peu près aujourd'hui l'aide publique au développement totale dans le monde, hein, donc de l'ensemble des États de l'OCDE aux pays du Sud bénéficiaires, ça représente à peu près 105 milliards de dollars en 2005. C'est en très nette augmentation depuis 2 ou 3 ans, après une longue période de stagnation. Comment expliquer cette très nette augmentation depuis quelques années? Eh bien, en fait, elle s'explique en très grande partie par les programmes d'aide à l'Afghanistan et à l'Irak, et notamment des réductions de dette des États-Unis envers ces deux pays. Donc l'Union européenne représente de très loin le premier contributeur de l'aide publique totale au développement, avec à peu près 60 milliards de dollars alloués en 2005, suivi par les États-Unis, à peu près entre 20 et 25 milliards de dollars, suivi par le Japon, à hauteur de 11 milliards de dollars. Voilà, il faut savoir que si on rapporte cette aide au PIB des États donateurs, les États-Unis et le Japon, qui sont les deux principaux contributeurs bilatéraux, se retrouvent derniers de la liste parce qu'en termes de pourcentage par rapport à leur PIB, ils donnent moins de 25% de leur PIB à l'aide publique au développement. Alors voilà pour les quelques chiffres en guise d'introduction sur la définition globale de l'aide publique au développement. Alors la France là-dedans, combien elle donne et surtout à qui profite cette aide française ? Alors en termes de chiffres, la France donne à peu près, elle a donné 8 milliards d'euros en 2005 au titre de l'aide publique au développement, ce qui représente à peu près 0,47% de son PIB. Alors elle est effectivement l'un des principaux contributeurs en termes d'aide publique, à la fois en valeur, en montant absolu et à la fois en valeur relative par rapport à son PIB. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout de décortiquer un petit peu le camembert de cette aide publique au développement et je conclurai en cadrant généralement sur l'action extérieure de la France. Donc, dans cette aide publique au développement, donc dans ces 8 milliards d'euros, qu'est-ce qu'il y a ? Alors, il y a déjà un tiers qui est constitué de réduction, d'opérations de réduction, d'annulation de la dette qui sont comptabilisées dans cette aide publique au développement. Alors, ce que beaucoup d'ONG critiquent, c'est le fait de comptabiliser quelque chose qui, en fait, ne représente pas de l'argent frais, des nouveaux crédits pour le développement, mais qui sont, en fait, des tours de passe-passe comptables et qui servent bien souvent, en fait, à réajuster la valeur de la dette à sa valeur marchande, puisque comme on sait que, par exemple, si je prends un exemple, le Congo-Brazzaville ne remboursera que la moitié de sa dette à échéance, eh bien, la valeur nominale de la dette diminue de 50% pour représenter sa valeur marchande sur le marché. Donc si par exemple le Congo-Brazzaville doit 100 millions d'euros à la France, si les marchés spéculatifs anticipent le fait qu'il ne veut pas rembourser ou que la moitié, eh bien cette dette ne vaudra sur le marché que 50% de sa valeur nominale, c'est-à-dire plus que 50 millions. Alors ce réajustement de 100 millions à 50 millions d'euros, eh bien la France l'a fait passer pour 50 millions d'euros alloués au titre de l'aide publique au développement. Ça c'est une première première critique qu'on peut apporter. La deuxième, c'est que finalement, 60% de ces opérations d'annulation de dette proviennent de prêts qui ont été contractés dans le cadre de la COFAS, c'est-à-dire c'était cette assurance crédit qui remboursait les banques et ou les entreprises françaises lorsque les gouvernements bénéficiaires Mobutu, Sassou Nguesso et compagnie ne remboursaient pas les prêts que la France leur a loués. Alors c'est extrêmement critiquable. On le retrouve d'ailleurs dans les rapports officiels du Parlement, y compris de la Commission pour l'Afrique présidée par Tony Blair, puisque pendant longtemps ça a été une politique uniquement de soutien aux exportations françaises, et on a longtemps fait passer ces prêts comme de l'aide publique au développement, alors que c'était des prêts purement commerciaux sur des projets qui n'avaient que peu à voir avec des véritables programmes de développement. Et dernièrement, finalement, sur ces opérations de dette, le Parlement français n'a un regard que sur 15% de ces très grosses sommes d'argent, puisque le reste est comptabilisé sur des comptes spéciaux du Trésor ou les comptes COFAS, etc. Donc finalement, on ne voit pas très très clair sur l'ensemble de ces opérations. En fait, les annulations de dette constituent à peu près un tiers, c'est-à-dire 33% de l'aide publique française au développement. C'est à peu près deux fois plus que la moyenne des États de l'OCDE. Donc voilà cette première critique. Si on prend maintenant le deuxième tiers de l'aide publique française, qu'est-ce qu'on a dans ce deuxième tiers ? Eh bien, on a de l'aide bilatérale, c'est-à-dire de l'aide qui est donnée par la France à un État en particulier, c'est-à-dire de la France au Tchad ou de la France au Gabon. Et on constate plusieurs choses. D'abord, que les coûts d'écolage sont inclus dans cette enveloppe. Alors, qu'est-ce que c'est que les coûts d'écolage ? Tous les frais relatifs aux bourses accordées aux étudiants étrangers pour venir suivre leur scolarité, leur enseignement supérieur en France. Alors, on peut dire que c'est bien à première vue, sauf que ces bourses-là sont accordées sans aucune politique très claire en matière d'accueil de ces étudiants, ni en matière de besoins sectoriels des États bénéficiaires, ni en matière de retour dans leur pays d'origine de ces étudiants. Donc il n'y a absolument pas de politique claire. D'ailleurs, les rapports parlementaires annuels contestent ce fait que rien n'est clair sur ces bourses-là. À cela, il faut ajouter que il y a à peu près un quart de ces étudiants étrangers qui, en fait, étaient déjà scolarisés dans le primaire et le secondaire. Donc c'était simplement des étudiants dans la période avant le bac qui étaient d'origine étrangère et qui donc quand ils passent aux études sont comptabilisés comme de l'aide publique au développement. Il faut aussi voir que seulement un quart de ces étudiants étrangers proviennent de l'Afrique subsaharienne. Voilà. Alors ces coûts d'écolage, comme on dit, représentent à peu près 800 millions d'euros par an. Hein, en 2005, ça représentait 800 millions au titre de l'aide publique française au développement. Et la France comptabilise ça comme de l'aide publique au développement, y compris l'Allemagne. Et à eux deux, ces deux pays constituent 90% de l'aide publique au développement européenne consacrée à l'écolage, en tout cas comptabilisée comme telle. Je continue ce décortiquage de la deuxième part du camembert, hein, ce fameux deuxième tiers bilatéral. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit aussi que tous les coûts administratifs relatifs aux demandeurs d'asile en France sont comptabilisés, en tout cas une grande partie de ces coûts sont comptabilisés comme de l'aide publique au développement. Ça représente à peu près... Ça représentait en 2005 à peu près 500 millions d'euros, ce qui est une enveloppe énorme, alors que c'est des financements qui devraient relever beaucoup plus de la politique de maîtrise des flux migratoires ou de la politique d'accueil. Eh bien non, c'est comptabilisé comme de l'aide publique au développement, ce qui est d'ailleurs assez paradoxal, puisque comme la France soutient certains régimes dictatoriaux, eh bien les gens qui fuient ces régimes dictatoriaux et qui arrivent en France, eh bien les coûts administratifs relatifs à leur accueil sont imputés comme de l'aide publique au développement qui est censée bénéficier à leur pays qu'ils fuient. Alors, c'est tout à fait paradoxal. Et il y a une dizaine de pays européens qui ont arrêté de comptabiliser ça comme de l'aide publique au développement, soit parce que c'était pas éthique de compter ça comme tel, comme le Royaume-Uni ou le Luxembourg, soit parce que de toute façon, ils n'arrivent pas à avoir des données suffisamment précises pour la comptabiliser. Voilà, la France comptabilise également une certaine partie de son aide au DOM-TOM, au territoire d'outre-mer, notamment Wallis et Futuna, puis Mayotte, cette île qui pose tant de problèmes avec ce statut illégitime de la tutelle française. Et ça représente à peu près 220 millions d'euros en 2005 et que la France comptabilise comme de l'aide publique au développement. Voilà. Finalement, on arrive qu'à, si on enlève ces coûts qui sont extrêmement, dont on peut critiquer la comptabilisation au titre de l'aide publique au développement, il n'y a plus que la moitié de l'APD française qui est véritablement des programmes d'aide au développement. C'est-à-dire qu'il n'y a plus que 51% de l'enveloppe initiale de départ qui est effectivement accordée aux programmes de développement. Et alors, quel programme ? Puisque si on s'intéresse à ces programmes-là, on voit également qu'il y a des projets d'appui à la francophonie dans le monde et au rayonnement culturel de la France dans le monde. Et effectivement, lorsqu'on s'intéresse de près à la Direction générale de la coopération internationale au développement, donc qui est un service du ministère des Affaires étrangères, on voit qu'il y a un poste budgétaire qui s'appelle « Affirmation de la dimension culturelle du développement » et qui en fait regroupe un certain nombre de projets de promotion de la culture française, comme les centres et les culturels français, les alliances françaises, Canal France International est, paraît-il, dans ce poste budgétaire, selon le dernier rapport parlementaire. Et on peut absolument critiquer le fait que ces programmes-là soient comptabilisés dans l'enveloppe totale du développement. Donc voilà, j'ai fini de décortiquer le deuxième camembert. Et de dire que finalement, si on enlève tous ces coûts-là, c'est-à-dire dette, écolage, accueil des demandeurs d'asile, les TOM, il n'y a plus que 50% de l'aide qui est véritablement des programmes d'aide au développement, et que même dans ces 50%, il y a des programmes de promotion de la francophonie et du rayonnement culturel de la France à l'étranger. En réalité, moins de 10% de l'aide bilatérale française est allouée au secteur de base, comme la santé de base, l'éducation de base et les programmes d'accès à l'eau. Et même d'ailleurs, si on s'intéresse par exemple au programme d'éducation de base, eh bien la moitié de ces financements-là, donc c'est déjà très peu, mais la moitié est allouée au coût des écoles françaises pour l'accueil de certains Africains de ces pays-là, et donc bien souvent on retrouve les fils des ministres ou les fils des dictateurs. Voilà. J'arrive à la troisième et dernière part du camembert, hein, qui est le troisième tiers de l'enveloppe de l'aide française, qui est de l'aide multilatérale, c'est-à-dire que ce n'est pas la France qui donne à un pays en particulier, c'est la France qui alloue une aide à une agence spécialisée des Nations Unies comme le PNUD, l'UNESCO ou l'Union Européenne. Alors effectivement, la France est le premier, bon, aujourd'hui c'est le deuxième contributeur du Fonds Européen de Développement, et elle alloue une part très importante de cette troisième part du camembert au Fonds Européen de Développement. Alors qu'est-ce qu'on peut critiquer là-dedans ? En fait, ce Fonds européen de développement suit la Convention de Cotonou, qui est, à mon avis, assez originale et assez avancée en termes de modèle de coopération et de partenariat. Seulement, la critique qu'on peut faire, c'est que, avec la pression des États membres pour décaisser de l'argent rapidement, on passe de plus en plus de l'aide sectorielle, c'est-à-dire de l'aide attribuée au secteur de la santé ou au secteur de l'eau, à une aide qu'on appelle de l'aide budgétaire, et qui est une aide allouée directement au trésor public des États. Alors, c'est très bien lorsque les gouvernements sont légitimement élus et ont le souci du respect et du développement de leur population. Mais lorsque cette aide est allouée à des régimes pourris, claniques, criminels, dictatoriaux, comme au Congo-Brazzaville, au Gabon, au Cameroun, au Tchad, au Togo, etc., eh bien, cette partie de l'aide directement affectée au trésor public peut contribuer dans ces contextes-là à consolider le régime en place, puisqu'elle lui apporte de nouveaux financements et que le budget de l'État est fongible. Voilà. Et puis, on peut apporter quelques autres petites critiques, par exemple que l'aide apportée aux agences spécialisées des Nations Unies est extrêmement petite, en réalité moins de 50% de la moyenne des pays de l'OCDE que la France accorde à ces agences spécialisées. Mais par contre, en 2005, elle a apporté un financement extrêmement important à la Banque mondiale au titre de l'Association internationale pour le développement, alors que la France a une voix extrêmement faible et pas très cohérente au sein de cette institution et qu'elle pourrait avoir un pouvoir beaucoup plus fort et beaucoup plus ferme vis-à-vis de cette institution dont on connaît les dégâts dans les pays bénéficiaires. Voilà, j'ai fini, j'ai essayé de décortiquer un petit peu ce camembert de l'aide publique au développement qui représente donc 8 milliards d'euros, ce sont des fonds considérables, mais au-delà du fait que cette aide est inappropriée, il faut aussi la mettre dans un certain contexte plus général d'action extérieure de la France et notamment de la politique de la France en Afrique et de la retracer dans le cadre de facteurs qui structurent véritablement les relations Nord-Sud et des facteurs qui continuent de nuire au développement de ces pays. Et l'association Survie s'intéresse aux facteurs politiques. Alors, quels sont ces facteurs, hein? C'est par exemple c'est le fardeau de la dette des pays du Sud qui représente 2600 milliards de dollars encore. C'est l'existence des paradis fiscaux et judiciaires dont le manque à gagner pour les États du Sud représente à peu près 80 milliards d'euros, soit presque la totalité de l'aide publique au développement en termes d'évasion fiscale et donc de manque à gagner pour les recettes de ces États-là. C'est également la volatilité des prix et la spéculation sur le prix des matières premières, des matières premières, et c'est également le manque de démocratie et de représentation de ces et d'expertise de ces États-là au sein des instances internationales et notamment des organisations comme l'OMC. Et dernièrement, et c'est là-dessus que l'association Survie insiste, c'est sur l'action extérieure des États et notamment de la France et l'action politique et diplomatique et militaire qu'elle continue d'entretenir avec certains dans certains pays, notamment dans ses anciennes colonies françaises. Là-dessus, évidemment, il y a toutes les critiques qu'on apporte à cette France-Afrique, c'est-à-dire tout le soutien que la France apporte à ces régimes criminels et dictatoriaux pour un certain nombre d'intérêts commerciaux, économiques, militaires, géostratégiques, et qui regroupe un certain nombre de réseaux d'influence, des réseaux d'influence militaire, nucléaire, des entreprises multinationales à actionnaires français, des services, des ambassades, etc., etc. Et notamment des bases militaires françaises, comme c'est le cas au Tchad, à Djibouti et au Sénégal. Malheureusement, ces réseaux-là sont en train de s'internationaliser petit à petit, et cette France-Afrique est en train de devenir de moins en moins franco-française ou franco-africaine, mais de plus en plus internationale, où on voit maintenant l'apparition d'intermédiaires financiers, de sociétés de sécurité privées, de spéculateurs sur le pétrole, sur les matières premières, sur les dettes des pays du Sud, comme c'est le cas en Angola et au Congo-Brazzaville. François-Xavier Verschave l'a très bien montré dans son livre « L'envers de la dette ». Et tous ces réseaux s'entrecroisent, se forment pour la circonstance, etc. Et que finalement, certes, il y a une concurrence et une compétition entre les États et les entreprises, mais on voit que lorsque les intérêts sont en jeu, eh ben, il y a une entente possible entre ces États, qu'on appelle une certaine complicité de ces États-là, occidentaux, et de ces entreprises-là pour le pillage des ressources naturelles. C'est d'ailleurs ce qu'on est en train de voir dans l'Est de la République démocratique du Congo. Donc voilà cette dimension politique sur laquelle l'association insiste, c'est qu'il faut absolument, c'est impératif de mettre en perspective cette critique de l'aide publique au développement dans un contexte beaucoup plus général de l'action extérieure de la France à l'étranger. Et il faut, avant de parler d'aide publique au développement, il faut d'abord s'attaquer à la remise en question des mécanismes internationaux qui continuent de nuire aux pays du Sud et notamment des facteurs politiques que nous dénonçons depuis 25 ans, c'est-à-dire la France-Afrique, l'Europe-Afrique et la mafia-Afrique.